VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 20h30 à Brazzaville et à Yaoundé, bienvenue dans la dernière édition du Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir, à Brazzaville, la police a bloqué une manifestation de l'opposition. Suite aux violences au Cameroun, l'ONU demande une enquête aux autorités. Le président Donald Trump s'est rendu à Porto Rico 12 jours après le passage de l'ouragan Maria. Et puis, bilan à la hausse à Las Vegas, 59 morts et 527 blessés après la fusillade. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Cameroun, une bombe artisanale a explosé la nuit dernière à proximité des locaux de la police à Bamenda, sans faire de victimes. Dimanche, les indépendantistes anglophones du Cameroun ont tenté de manifester pour proclamer symboliquement l'indépendance des deux régions anglophones, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aux autorités camerounaises une enquête sur les actes de violence dans ces régions, donc du sud-ouest et du nord-ouest du pays, violences qui sont intervenues le 1er octobre, ce qui, selon lui, a donné lieu à des pertes en vie humaine. Plus de détails avec Jacques Aristide.
Dans un communiqué, le patron de l'ONU condamne fermement ces actes et se dit profondément préoccupé par la situation au Cameroun. Antonio Guterres exhorte les dirigeants des deux côtés à appeler leurs partisans à s'abstenir de nouveaux actes de violence et à condamner sans équivoque toute action qui puisse nuire à la paix, la stabilité et l'unité du pays. Le patron de l'ONU dit prendre note de l'appel au dialogue lancé par les autorités et encourage les représentants de la communauté anglophone à saisir cette opportunité dans leur recherche de solutions aux griefs de la communauté dans le cadre de la constitution camerounaise. Le Cameroun est confronté à cette crise depuis un an. L'épisode le plus sanglant a eu lieu dimanche avec au moins 17 morts en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance vis-à-vis des francophones d'après un bilan établi par Amnesty International. La minorité anglophone proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation dans la société.
Antonio Guterres a également dénoncé l'absence de progrès politique au Mali dans l'application de l'accord de paix de 2015. Le secrétaire général de l'ONU regrette en particulier l'absence de progrès administratif et institutionnel à Kidal et à Tombouctou, ce qui, selon lui, et je le cite, envoie de mauvais messages. Direction la Côte d'Ivoire, où une campagne de lutte contre la vente de faux médicaments a été lancée à Abidjan par le groupe pharmaceutique français Sanofi. Le trafic des médicaments de la rue qui tue, c'est le thème de cette campagne, ferait perdre annuellement 50 milliards de francs CFA au secteur. À Brazzaville, des membres de l'opposition et de la société civile ont été bloqués par les forces de l'ordre alors qu'ils voulaient manifester. L'opposition voulait interpeller le FMI à la transparence dans ses négociations qu'il mène actuellement avec les autorités congolaises. De Brazzaville, la correspondance de Nguelan Goussou.
La place de la pause a été prise ce mardi matin par des policiers pour empêcher le rassemblement de l'opposition et de la société civile. Elles allaient manifester pour plus de transparence dans les discussions entre les FMI et les autorités congolaises. Les retraités et les étudiants qui réclament 9 mois de pension et de bourses non payées, ainsi que les travailleurs des autres entreprises en difficulté de paiement, devaient se rejoindre au centre-ville. Les leaders de l'opposition, dont Claudine Mounari, Clément Mirassa et Charles Zachary Bouaou n'ont pu sortir car bloqués par les éléments de la police au domicile de Madame Mounari. Blanchard Robat, un autre opposant, est resté coincé par les policiers postés devant son hôtel. La manifestation n'a finalement plus eu lieu et le calme a régné sur la ville toute la journée. L'opposition a dénoncé par ailleurs l'arrestation des deux de ses militants pris chez Claudine Mounari. Nguelan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la dernière présidentielle face à l'homme fort du pays Paul Kagame, Diane Rwigara a été inculpée avec sa mère et sa sœur pour incitation à l'insurrection. L'opposante est par ailleurs poursuivie pour contrefaçon de documents dans le cadre de sa tentative de candidature à la présidentielle, alors que sa mère, elle, est poursuivie pour pratique sectaire. L'université de Nairobi a été fermée aujourd'hui en raison de manifestations avant la nouvelle élection présidentielle du 26 octobre. Le point avec Nathalie Barge.
La décision a été prise après de nouvelles manifestations des étudiants qui ont bloqué des rues près du campus, entraînant des confrontations avec les forces de l'ordre. Hier soir et ce matin, ils sont sortis pour dénoncer les brutalités policières. Les manifestations ont débuté la semaine dernière après l'arrestation de Babu Owino, ex-président de l'association des étudiants, qui a obtenu un siège de député le 8 août sous les couleurs du parti de l'opposant Raila Odinga. La tension s'est accentuée depuis l'annulation du scrutin par la Cour suprême le 1er septembre. L'opposition conditionne sa participation à l'élection présidentielle du 26 octobre à une réforme de la commission électorale, blâmée par la Cour suprême pour sa gestion du précédent scrutin.
En Ouganda, les résidences de deux influents députés de l'opposition ont été visées par des engins explosifs, probablement des grenades. Les deux députés sont très critiques du projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. En Afrique du Sud, la famille de l'athlète paralympique Oscar Pistorius, condamné à 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie, a annoncé qu'elle allait porter plainte contre les auteurs d'un film consacré à cette affaire. Pour sa famille, ce film déforme la vérité. Et puis cette saisie record de cocaïne au Maroc, 2,5 tonnes ont été saisies hier sur plusieurs sites sur la route côtière entre Rabat et Casablanca. Les trafics de drogue passant d'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Nord, en provenance d'Amérique latine, se sont développés ces 10 dernières années, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. À son arrivée à Porto Rico, le président américain Donald Trump s'est félicité du bon travail réalisé sur l'île dévastée par l'ouragan Maria, minimisant cependant la situation par rapport à, je le cite, ce qu'il qualifie de vraie catastrophe, comme l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans. Près de 2 semaines après le passage dévastateur de cet ouragan de catégorie 4, Porto Rico panse toujours ses plaies. Une grande partie des habitants vit toujours sans électricité, sans accès à l'eau potable, ni carburant et parfois sans toit. Stephen Paddock, l'auteur du massacre de Las Vegas, reste une énigme aux États-Unis. Les médias et les spécialistes se demandent encore quelles ont été ses motivations. Écoutons son portrait avec Yacouba Ouedraogo.
Stephen Paddock, 64 ans, était un comptable à la retraite. Habitué des casinos, il pariait des sommes importantes selon son frère Eric. Étrange et reclus, au dire de ses voisins, il était devenu millionnaire grâce à des investissements immobiliers. Paddock possédait plusieurs maisons. Inconnu des services de police, il a accumulé un arsenal de 42 fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions. La suite, on la connaît, 59 personnes sont tombées sous ses balles assassines, 500 autres blessées. Il avait une petite amie, Marie-Lou Danley, une Australienne de 62 ans d'origine philippine, ancienne employée de casino, qui se trouvait à Tokyo au moment de la fusillade. Son père était un braqueur de banque connu qui s'est évadé de prison dans les années 1960 avant d'être rattrapé. Le groupe État islamique a affirmé qu'il était l'un de ses soldats convertis à l'islam, mais le FBI dit n'avoir trouvé aucun lien entre Stephen Paddock et le groupe djihadiste. Comme après toute fusillade de masse, le débat sur la vente des armes est relancé aux États-Unis.
Les États-Unis ont expulsé aujourd'hui 15 diplomates cubains en poste à Washington. Après de mystérieuses attaques qui ont affecté la santé de 22 diplomates américains à La Havane, plus de la moitié du personnel de l'ambassade américaine à Cuba a été rapatrié. Les relations diplomatiques avec La Havane sont maintenues, a précisé le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, mais les expulsions ont été décidées en raison de l'incapacité de Cuba à prendre les mesures appropriées pour protéger nos diplomates, selon toujours les mots de Rex Tillerson. À Barcelone, en Espagne, des centaines de milliers de Catalans ont défilé pacifiquement. À Madrid, au même moment, le porte-parole du Parti conservateur au pouvoir a comparé les dirigeants séparatistes catalans à des nazis. À Gaza, le gouvernement palestinien s'est réuni, une première depuis 2014. Cette réunion est censée matérialiser une réconciliation avec le Hamas. Israël a fixé ses conditions. Elle ne traitera avec un gouvernement parlant au nom de toutes les factions palestiniennes que si le Hamas démantèle son bras armé, rompt avec l'Iran et reconnaît l'État d'Israël. Des conditions qui sont bien sûr rejetées par le Hamas. Et puis en visite dans la grande colonie juive de Malé Adoumim, en Cisjordanie occupée, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est engagé à construire massivement des milliers de logements. Et puis pour finir, en Syrie, au moins 18 civils, dont des enfants, ont été tués dans un raid aérien de la coalition à Raqqa, théâtre de combat pour déloger les derniers djihadistes. Le groupe État islamique s'est retiré, mais la ville n'est pas encore sous le contrôle des forces démocratiques syriennes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Brazzaville accueille à partir d'aujourd'hui une conférence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la communauté de l'Afrique de l'Est pour accélérer la mise en œuvre du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, du Fonds bleu pour le bassin du Congo, de même que celle de la Commission climat pour cette partie du continent. Les projets que prévoient ces fonds visent à diversifier l'économie des pays concernés, à développer des entreprises, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations. La conférence, sous le patronage du président congolais Denis Sassou Nguesso, prendra fin jeudi. Le groupe hôtelier américain Hyatt va doubler sa présence en Afrique. La chaîne va ouvrir 6 nouveaux hôtels sur le continent d'ici à 2020 et créera plus de 2000 emplois. Ce sera notamment au Cameroun, Sénégal, en Tanzanie, Éthiopie, Algérie et au Maroc. Le groupe affirme que le marché hôtelier africain est en plein essor avec une forte augmentation des voyages sur le continent. La culture, un rôle majeur à jouer dans le développement de l'Afrique, ce sont les mots du chanteur Assalfo, leader du groupe ivoirien Magic System, lors des rencontres économiques Africa 2017 à Abidjan. La star ivoirienne a appelé les investisseurs à s'engager davantage dans le secteur culturel et aux côtés des artistes. Quelques 3600 entreprises africaines et 480 sociétés françaises participent à cet événement.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Bien sûr du foot, la liste des 23 joueurs algériens retenus pour affronter le Cameroun a été publiée.
L'Algérie, qui est déjà éliminée de ce mondial 2018 en Russie, se présentera finalement à Yaoundé sans aucune de ses têtes d'affiche habituelles pour affronter le Cameroun. Siriad Mahrez et Islam Slimani ont été écartés. Yassine Brahimi a lui déclaré forfait. La Fédération algérienne de football annonce que Faouzi Ghoulam a renoncé à rejoindre la sélection officiellement pour raison de santé. Le sélectionneur Lucas Alcaraz a décidé d'appeler en renfort l'international algérien évoluant à Empoli, Ismaël Benacer. Il arrivera ce mardi à Alger.
Il y a peu de suspense dans ce groupe B.
Oui, le Nigeria est sur le point de retrouver la Coupe du Monde. Les Super Eagles ne sont qu'à une victoire de se qualifier. Et le duel contre la Zambie à Uyo ce week-end va sentir la poudre. Les Chipolopolo sont à 3 points des Nigérians. Et une victoire zambienne relancerait complètement ce groupe qui a été fatal aux mondialistes. Bye bye, Algériens et Camerounais. Éliminer ces deux équipes s'affrontent donc pour un match sans enjeu.
La Lazio sanctionnée pour les chants racistes de ses supporters.
La Lazio de Rome va devoir fermer son virage nord, l'une de ses tribunes les plus ardentes pour deux matchs, le club étant à nouveau sanctionné après des chants racistes de supporters. Lors du match contre Sassuolo, une victoire 6 buts à 1 dimanche, ces chants étaient dirigés contre deux joueurs, Alfred Duncan et Claude Adjapong. Le club romain avait déjà été sanctionné pour des faits similaires le 30 avril dernier. La tribune restera donc close durant les matchs du 22 octobre contre Cagliari et la rencontre face à Udinese le 5 novembre.
Merci Nicolas. Et puis...
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le gouvernement congolais annonce que l'annulation des passeports semi-biométriques prévus pour ce 16 octobre a été repoussée au mois de janvier. Cette décision avait suscité la polémique dans le pays. Mais le report ne satisfait toujours pas l'opposition qui demande l'abrogation pure et simple de la mesure. Pour réaction, Abdourahmane Dia a joint à Kinshasa le député de l'opposition Christophe Lutundula.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, les députés nationaux, toutes tendances politiques confondues, de la majorité de l'opposition, ont été unanimes qu'il fallait tout simplement retirer la décision pour deux raisons. Sur le plan juridique, dans la forme qui convient, il fallait un arrêté ministériel. On ne crée pas de droit, on n'annule pas de droit avec un simple communiqué. Il faut un acte juridique et la Constitution dit que le ministre agit par voie d'arrêté. Et la raison politique est que cette mesure pour la population congolaise qui est concernée et ne se justifie pas du tout. Et donc, nous attendons que M. le vice-premier ministre, qui a promis de nous répondre dans 48 heures, nous amènera une décision qui est conforme à la recommandation de la représentation nationale qui en a le pouvoir et qui est conforme à l'intérêt de tous les Congolais.
Le gouvernement estime qu'il s'agit d'une mesure d'apaisement qui répond un peu aux préoccupations des Congolais qui avaient manifesté pour rejeter cette mesure.
Tous les Congolais, en tout cas l'écrasante majorité de ceux qui ont des passeports, même de ceux qui ne l'ont pas, n'ont pas demandé des mesures d'apaisement. Ils ont demandé qu'on respecte leurs droits. On achète le droit d'user du passeport pour une durée de 5 ans. Donc, de ce point de vue-là, le gouvernement est mis à rude épreuve pour nous démontrer un gouvernement qui procède de la démocratie, qui suit ce que le peuple veut ou non. Deuxièmement, les députés ont démontré hier qu'aussi bien sur le plan de droit et de la réglementation internationale, que sur le plan politique, cette mesure n'avait aucun fondement. Donc il n'est pas question de l'alléger. On n'allège pas le mal. On renonce au mal. Il faut retirer la décision. Ça ne coûte rien au gouvernement.
Et qu'est-ce que vous comptez faire si le gouvernement n'annule pas la mesure, tout simplement?
Nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à protester. Évidemment, il va imposer. Nous sommes dans un régime de coup d'État permanent. On constatera que ce n'est pas un gouvernement qui travaille pour l'intérêt de la population.
Le député congolais Christophe Lutundula, il était joint à Kinshasa.
Et Kia Badou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation au Cameroun. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Elle exige le retour au fédéralisme sans obtenir satisfaction du gouvernement. Faut-il proclamer l'indépendance des régions anglophones? Comment réconcilier les différentes régions? Comment sortir de cette crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est jeudi à 19h en temps universel.
En République centrafricaine, les enseignants ont tendance à privilégier les écoles privées au détriment des écoles de l'État. Cette situation inquiète de plus en plus les élèves et leurs parents. Le ministère de l'Éducation assure que des dispositions sont en cours pour y faire face. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Deux semaines après le lancement officiel de la rentrée scolaire 2017-2018, les cours n'ont pas encore démarré dans la quasi-totalité des écoles publiques. Dans les établissements scolaires privés, par contre, les enseignants dispensent déjà les cours. Selon les élèves, certains enseignants ne respectent pas le planning dans les structures scolaires étatiques au profit des écoles privées.
Vous voyez, sur nos emplois du temps, les professeurs ont souvent 30 heures de cours, mais on arrive à faire seulement 3 séances de cours et c'est fini pour l'année. Donc vous voyez, c'est trop difficile. difficile.
Les anciens ne dispensent pas bien leurs cours. Ils ne suivent pas leur programme. Les emplois du temps aussi. Ça joue sur nous. On n'arrive même pas à comprendre leurs cours.
Même si l'État prend du retard à les payer, à un moment, il va toutefois leur donner leur argent. Donc moi, je vois que ça, c'est un faux problème. Et ça impacte sur l'éducation de notre pays. Parce que la plupart des parents n'ont pas assez d'argent pour payer les écoles privées à leurs enfants.
Ce comportement observé aussi bien à l'université que dans les écoles secondaires est décrié par Africain Kazangba, président de la Fédération des associations des parents d'élèves.
Oui, c'est un souci également pour les parents. Nous avons cette réaction vive. Et là, c'est un peu un problème grave que nous avons toujours déploré. Ça joue sur la baisse des niveaux parce qu'il y a un programme qui est établi par le gouvernement et mis à la disposition de ces fonctionnaires-là pour le travail de l'éducation nationale. Et si ça déséquilibre comme ça, ça prouve que vraiment on n'est pas conscient de notre profession puisque nous avons cette vocation d'enseigner. Et quelque part, il y a un manquement grave pour les parents d'élèves qui sommes nous et puis également pour le gouvernement qui est l'État, qui est l'employeur.
Selon Innocent Paris, secrétaire général du collectif des professeurs vacataires de Centrafrique, les enseignants se livrent à cette pratique pour joindre les deux bouts.
Dire que les gens abandonnent le public pour aller au privé, peut-être sur le plan pécunier, le côté argent, parce que le privé paye bien. Donc je pense que c'est vraiment logique que les enseignants interviennent dans le domaine privé pour leur permettre aux jeunes les deux bouts et pour apporter leur contribution pédagogique en vue du développement de la jeunesse africaine.
Au cours d'une réunion tenue le 30 septembre à Bangui, l'association des professeurs de français a appelé à une prise de conscience. Anatole Aimé Blaise Bangalène, président de l'association.
Bon, là, c'est un problème de conscience personnelle. Lorsque l'État recrute ses enseignants, il les paie, et ce jusqu'à la retraite. Et je sais que nous devons beaucoup plus à l'État qui nous paie. Mais maintenant, délaisser les établissements publics au profit de l'établissement privé, je pense que là, ce n'est pas bien parce que qu'est-ce que nous allons faire des enfants des pauvres?
Pour cette nouvelle année scolaire, le gouvernement prévient qu'il y aurait un traitement différent pour les enseignants. Selon le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, il ne faudrait pas continuer d'assister passivement au refus des enseignants de rester à leur poste. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
La peste a fait son retour dans la capitale malgache, Antananarive, où l'épidémie a déjà fait 6 morts et sème la panique dans la population qui se rue sur les pharmacies pour trouver des antibiotiques. La grande île est habituée à la peste qui réapparaît presque chaque année de septembre à avril. Solange Niamoulissa a joint Gaël Borgia, journaliste à Antananarive.
Le dernier bilan qui a été donné par le ministre de la Santé publique, c'est donc 28 décès et en tout, il y a 150 cas de peste à travers l'île.
Est-ce que les gens à Tana ont accès aux médicaments et aux masques de protection?
La représentante de l'OMS à Madagascar, et elle a bien expliqué que la peste se soigne et que le traitement est gratuit. Donc il ne faut pas faire d'automédication. Dès qu'on a les symptômes de la maladie, il faut tout de suite consulter et on peut être soigné gratuitement dans les hôpitaux. Concernant les masques, ils sont en libre-service dans les pharmacies, mais le ministère de la Santé explique que ce n'est pas très utile. Les masques doivent être utilisés par les familles qui ont un membre malade ou personnel de santé dans les hôpitaux qui sont en contact avec les malades. Eux doivent porter ces cache-bouches, en fait, ces masques. Mais pour la population en général, il n'y en a pas besoin. Les consignes, en fait, c'est d'éviter les lieux confinés où il y a beaucoup de monde, par exemple les bus ou les marchés couverts.
Quelle est l'atmosphère globale à Madagascar, spécialement à Tana?
La vie continue. Les gens prennent le bus, la rentrée scolaire a eu lieu, donc les enfants vont à l'école, mais il y a quand même un vent de panique. Donc il y a une psychose qui s'est installée dans la capitale. Les gens essaient de ne pas trop serrer les mains, on essaie de ne pas trop parler trop près les uns des autres. Donc il y a une forme de psychose qui est due aux 5 morts qui ont été comptés ces quelques derniers jours. Mais la vie continue, à part les files d'attente devant les pharmacies, rien n'a vraiment changé.
Pourquoi la peste est revenue à Madagascar?
Alors l'OMS a expliqué que la peste existe dans plusieurs pays du monde, notamment en RDC. Madagascar, en fait, connaît une résurgence de la maladie chaque année à la même période. Fin août, début septembre, c'est le début de la saison pesteuse et ça dure jusqu'en mars de l'année suivante. Donc là, on a encore quelques mois devant devant nous. Il y a plusieurs hypothèses à cette résurgence de la peste chaque année. D'abord, il y a les feux de brousse qui ont souvent lieu en juillet-août et qui, en fait, font fuir les rats de la forêt et ces rats arrivent jusque dans les maisons. Ensuite, il y a les retournements des morts. C'est cette coutume ancestrale d'exhumation des cadavres qui peut faire ressortir le microbe. Il y a parfois des morts de peste que les familles déterrent, des morts qui contiennent encore des bactéries et ça peut en fait contaminer certaines personnes.
Gaëlle Borgia, journaliste à Antananarive.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le tueur de Las Vegas reste juste là une énigme aux États-Unis. Stephen Paddock était un joueur invétéré, habitué des hôtels casinos et pariait des sommes très importantes. Il a accumulé dans la plus grande discrétion un arsenal de 42 fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions. Les enquêteurs s'emploient à comprendre le mobile qui l'a fait basculer. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint un habitué de Las Vegas et professeur des sciences politiques à l'Université de Floride, le docteur Richard Conley.
Moi, je fréquente la ville assez souvent, l'aéroport. C'est une ville vibrante. Bien sûr, il y a des casinos, des shows, etc. Et pour la plupart, on est en sécurité. On n'a pas de problème avec cette sorte de violence. Mais après 59 meurtres et plus de 500 personnes blessées par cet homme, c'est bien sûr étonnant.
Le problème de port d'armes est de nouveau posé. Comment aborder cette question, professeur?
C'est très difficile. Vous savez, dans une société libre, parce que nous avons le second amendement à la Constitution qui donne le droit à n'importe quelle personne, sauf pour les criminels, d'avoir des armes à feu. C'est très difficile. Comment régler cela? D'arrêter les gens qui ont des motifs pour tuer des gens. Moi, je suis pas psychiatre, mais il paraît, en ce moment, peut-être il avait une rupture psychiatre qui est peut-être la cause de ces actions, mais c'est très difficile.
Il y a le deuxième amendement qui protège le droit de port d'armes, mais en même temps, ces armes tuent toujours des innocents.
Oui, mais les fondateurs de la République ont cru vis-à-vis la tyrannie des Britanniques il y a plus de 100 ans qu'ils fallait absolument avoir le droit de se défendre. Et c'est ça la question. Comment balancer le droit, la possibilité de se défendre contre la tyrannie et en même temps d'avoir la possibilité qu'il y a des gens qui vont commettre ces actes de violence comme ça. C'est un événement terrible qui a vraiment ébranlé la ville de Las Vegas et bien sûr la nation. Mais est-ce que c'est mieux d'amender la Constitution pour arrêter tout le monde d'avoir des armes à feu, même pour se défendre?
Le président Donald Trump, c'est un fervent défenseur du port d'armes. Est-il maintenant confronté à une pire réalité de son administration, lui qui l'a dit qu'il allait réinstaurer l'ordre et la loi dans le pays?
Ben oui, c'est très difficile. Obama, il avait les mêmes défis quand il y a des tueurs en masse comme ça. Quoi faire? Donc le président, il ne peut faire très peu pour empêcher les gens de commettre ces actes de violence. Mais ce qu'ils font, à mon avis, c'est une conversation nationale sur les armes à feu.
Dr Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Cette édition, merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Patrick Déa, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bien sûr, restez connectés 24h sur 24 à l'information grâce à notre page Facebook. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité suivi de l'émission Le RM Show animé par Roger Muntou. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.